La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Et bonsoir.
Coucou.
Ouais, on est toujours là pour lire une autre brochure. La brochure d'aujourd'hui, elle a comme titre Les cinq de Lucasville, des moutons dans le couloir de la mort. C'est un sujet très lourd et on espère bien de l'enfanter dans les meilleures des façons. Et bon, nous, on va commencer.
Vive les mutins! L'histoire des prisons est ponctuée de mutineries. Alors, pourquoi raconter celle de la prison de Lucasville plutôt qu'une autre? Pourquoi raconter l'histoire de cinq condamnés à mort dans un pays, les États-Unis, où ils, elles, sont plus de 3100? Pourquoi appeler à la solidarité avec les cinq de Lucasville plutôt qu'avec d'autres?
Vu de France, l'histoire de la moutinerie de la prison de Lucasville peut susciter une certaine surprise. Les cadres et une prison de haute sécurité rassemblent pourtant fort aux maisons centrales et aux quartiers d'isolement qui existent en France. Par contre, comme partout ailleurs dans le système carcéral états-unien, la survie de chacun est assurée par l'appartenance à des gangs qui suivent d'assez près les divisions raciales. Parfois, pour les meilleurs, lorsqu'ils permettent à des membres des minorités raciales l'autodéfense face aux agressions racistes et qu'ils promeuvent des formes d'émancipation. Mais le pire existe en matière de gangs. L'Aryan Brotherhood, la fraternité aryenne, qui prend la suprématie de la race blanche et en fait partie. Mais on va jusqu'à dire l'Aryan Brotherhood, c'est la fraternité aryenne et c'est une gang des prisonniers créée au milieu des années 60 qui regroupe des prisonniers blancs et promeut le suprémacisme blanc, la supériorité de la race blanche. Elle est active sur tout le territoire des États-Unis.
Donc la mutinerie de Lucasville a une place toute particulière dans l'histoire des luttes menées par les prisonnières aux États-Unis en raison des déclarations des mutins affirmant appartenir tous à la race des prisonniers. Cette volonté de résolument dépasser les divisions raciales et les formes de hiérarchisation des délits et des crimes qui existent en prison fait la particularité de la mutinerie de Lucasville. Pendant la mutinerie, puis dans la répression qui s'en est ensuivie, on ne peut qu'admirer l'incroyable solidarité entre les détenus, par-delà l'appartenance à des gangs différents et souvent antagonistes. Il est sans doute compliqué, de France, d'imaginer l'ampleur de l'effort que cela suppose dans le contexte racial des États-Unis, en particulier dans les prisons.
La mutinerie de Lucasville est la plus longue de l'histoire des États-Unis. Elle se déroule du 11 au 21 avril 1993, soit 11 jours durant lesquels un peu plus de 400 détenus ont pris le contrôle du quartier L de la prison. Il y a un côté lumineux de la mutinerie, l'auto-organisation des prisonniers, la collectivisation des ressources, comme l'alimentation, ou les génies collectifs qui permettent de bricoler un haut-parleur pour diffuser la parole des moutons par-dessus les murs d'enceinte.
Mais la mutinerie de Lucasville n'échappe pas à l'ordinaire des mutineries. Elles sont aussi l'occasion de terribles violences entre détenus. Il y a des querelles personnelles, des prisonniers soupçonnés, à tort ou à raison, d'être des balances, des personnes fragiles que les événements, angoissants, poussent à des passages à l'acte. Dans les ailes tenues respectivement par trois fractions, les musulmans, les noirs et les blancs, la plupart des détenus ont formé des petits groupes et ont simplement veillé à survivre aux événements.
Survivre. Car tous les détenus le savent, les moutineries sont synonymes de bains de sang. Deux autres moutineries en particulier sont dans les mémoires. Celle d'Attica, New York, 1971, au terme de laquelle 29 prisonniers et 10 otages ont été tués par les forces d'intervention. Et celle de Santa Fe, Nouveau-Mexique, de 1980, durant laquelle 33 prisonniers ont été tués par des co-détenus. Autant dire qu'à Lucasville, chacun s'attend à un massacre. Ce sentiment est d'autant plus fort que se déroule quasi simultanément les sièges de Waco, 28 février et 19 avril au Texas, L'assaut donné par les forces de l'ordre au bunker, dans lequel sont retranchés des fanatiques religieux, se solde par la mort de 82 personnes.
Pourtant, la mutinerie de Lucasville est l'une des moins sanglantes. Si on rapporte le nombre de victimes, 9 prisonniers et 1 surveillant, au nombre de jours que dure la mutinerie. Et elle ne se termine pas par un assaut des forces de l'ordre, mais par la reddition pacifique de 407 prisonniers après un accord signé entre eux et l'État de l'Ohio.
Pourtant, la répression de la mutinerie de Lucasville a été très dure. 5 condamnations à mort ont été prononcées contre George, Bomani, Jason, Hassan et Namir. Mais des très lourdes peines ont également été prononcées à l'encontre des dizaines d'autres détenus. Il y a ce qui ne peut se quantifier, les brimades, les transferts, les mises à l'isolement. Par exemple, Mosi Opaki, qui a été libéré en février 2014, a passé 13 années en isolement sans jamais avoir été jugé pour des faits liés à la mutinerie de Lucasville.
Nous n'avons aucune illusion sur les possibles effets concrets dans la lutte des prisonniers aux États-Unis de notre récit, ici, de la mutinerie de Lucasville, de la formidable solidarité entre les 5 de Lucasville et la plupart des détenus poursuivis. Si notre voix peut se mêler, de loin, à celle des soutiens, tant mieux. Mais il nous semble surtout important de parler des mutineries, de les renseigner, de les comprendre, y compris dans leurs aspects les plus sombres. Elles posent le débat de comment on lutte contre la prison, et pour peu qu'on s'y intéresse, elles apparaissent nettement comme un démenti à tous les tenants des voies possibles d'amélioration des prisons. On ne peut dire « abat les prisons » sans crier également « vive les mutins !»
La mutinerie de Lucasville, un récit. Je vais lire un petit truc, juste parce que comme ça, vous pouvez comprendre un peu plus ce qu'on est en train de lire. De temps en temps, beaucoup de détenus ont des noms d'usage ou des surnoms pour des raisons religieuses, politiques ou de convenances personnelles. Et nous utilisons les noms qu'ils emploient les plus fréquemment, mais signalons les noms officiels lors de leur première apparition dans la brochure, afin que ceux, celles qui liront d'autres documents relatifs à la mutinerie de Lucasville puissent s'y retrouver.
Le nom officiel de la prison de Lucasville est le Southern Ohio Correctional Facility, SOCF. Située dans le nord-est des États-Unis, dans l'État de l'Ohio, Lucasville est une prison de haute sécurité, plutôt grande, 1820 prisonniers au moment de la mutinerie, et éloignée des grands centres urbains. À Lucasville, il y a d'un côté des surveillants quasi exclusivement blancs et venant d'un milieu rural, et de l'autre, des détenus issus de minorités raciales et venant des grandes villes. Voilà pour l'ambiance.
C'est un extrait de The Untold Story, que c'est un livre écrit pour deux personnes qui ont suivi toute la mutinerie et même après, ils ont essayé de porter de la solidarité à ceux qui ont été condamnés. Perotti raconte que la plupart des violences à l'encontre des prisonniers avaient lieu dans les blocs J, là où se trouvent les secteurs contrôle administratif et contrôle disciplinaire, soi-disant mitard. En 1983, continue Perotti, 12 surveillantes ont battu à mort Jimmy Haynes, un prisonnier africain-américain mentalement perturbé. Deux autres prisonniers noirs, Lincoln Carter et John Ingram, étaient soupçonnés d'avoir touché des infirmières blanches. Ils ont été battus par des surveillants et retrouvés morts dans leur cellule de mitard le lendemain. Aucune enquête pénale n'a eu lieu.
Un groupe de prisonniers connus, comme les 14 de Lucasville, voulaient abandonner leur nationalité états-unienne et émigrer vers d'autres pays. 3 de ces prisonniers se sont coupés un ou plusieurs doigts et les ont envoyés aux Nations Unies et au département de la justice pour montrer leur sérieux. Des prisonniers ont organisé une branche du syndicat Industrial Workers of the World pour demander un salaire minimum pour le travail en prison, raconte Perotti.
C'est dans ce contexte qu'une jeune enseignante qui travaille à la prison, Beverly Taylor, est assassinée en 1990. Cette tragédie entraîne des manifestations hostiles aux prisonniers qui ressemblent beaucoup à celles qui se produiront lors de la mutinerie de 1993. Après l'assassinat de Beverly Taylor, un nouveau directeur, Arthur Tate, surnommé King Arthur, est nommé. À son arrivée, il décide que tous les prisonniers seront confinés et il organise des fouilles régulières qui dégénèrent souvent. Les programmes socio-éducatifs sont arrêtés et le régime général de la détention se durcit. Les détenus sont régulièrement transférés d'un bâtiment à un autre et des règles absurdes sont mises en place, comme l'obligation de se déplacer en rang de deux et de suivre un marquage au sol. Autre fait remarquable avec l'arrivée de Tate, il favorise par un système de récompense la délation entre les prisonniers. Que certains soient devenus des balances auprès de l'administration pèsera lourd dans les bilans de la mutinerie.
La prison de Lucasville était prévue pour 1540 prisonniers. En avril 1993, la prison en comptait 1820, avec 804 prisonniers dans des cellules doublement occupées, ce qui rend l'atmosphère explosive. D'autant que les prisonniers n'ont souvent pas d'autre perspective que de purger toute leur peine dans cette prison.
Autre petit extrait du livre de Untold Story. Être transféré en dehors du SOCF devenait difficile. Entre janvier 1992 et avril 1993, 75% des demandes d'un passage à un niveau de sécurité moyen, impliquant de partir du SOCF, est soutenu par le personnel du SOCF, ont été refusées. George Skates a été pris en possession d'un joint et de $40 en 1985 ou 1996 au SOCF. Et il lui a été dit qu'il lui faudrait tirer 5 ans de plus au COSF. À la fin des 5 ans, il a rencontré le comité de classification de Lucasville. Le président lui a dit « Vous êtes éligible pour un transfert. Où voulez-vous aller ?» Puisque sa sœur et d'autres de ses proches vivaient à Marion, Ohio, George a répondu « Marion », mais sa demande a été refusée.
Mais l'élément déclencheur de la mutinerie d'avril 1993 a été la volonté de Tate de faire passer à tous les prisonniers un test de dépistage de la tuberculose, qui impliquait l'injection d'un produit contenant de l'alcool, et de ce fait contraire aux préceptes religieux suivis par certains prisonniers musulmans.
Le 5 avril, alors que 159 détenus, la plupart musulmans, ont déclaré refuser d'effectuer le test, Tate et son équipe rencontrent trois prisonniers musulmans. Hassan, son vrai nom Carl Sander, Taimullah Abdul Hakim, le vrai nom Leroy Elmore, et Namir, James Ware. Ce jour-là, puis de nouveau quelques jours plus tard, les détenus demandent à ce que des méthodes alternatives de dépistage de la tuberculose soient utilisées, comme cela se fait d'ailleurs dans d'autres prisons. La direction reste sourde aux demandes des détenus et Tate menace de confiner tous les prisonniers et de faire injecter les produits aux récalcitrants de leurs cellules à partir du lundi suivant, le 12 avril. La tension est de plus en plus vive, mais le vendredi 9, Tate part un week-end.
La prise du quartier L. Tate, le directeur de la prison, n'est toujours pas revenu de son week-end lorsque le dimanche 11 avril, en début d'après-midi, des prisonniers qui reviennent de la cour de promenade s'emparent de l'aile 6 du quartier L, L6, et prennent une dizaine de surveillants en otage.
Les mutants pensent occuper quelques heures la salle commune du L6 et ainsi faire entendre à Columbus, la capitale de l'État de l'Ohio, leurs revendications. Mais rapidement, certains prisonniers s'en prennent aux surveillants, ainsi qu'à des détenus réputés être des balances. Ces bagarres font plusieurs blessés. Quelques détenus, dont George Gates, s'occupent d'amener un détenu, John Freeman, et trois surveillantes, Harold Fraley, John Camper et Robert Schroeder, dans la cour des promenades où ils sont ensuite évacués par les autorités.
Après ces premières échauffourées, il reste 8 surveillants en otage et les détenus s'emparent du reste du quartier L. Au fur et à mesure que les détenus prennent le pouvoir dans le quartier, des détenus réputés être des balances subissent des violences. 6, tous des blancs, sont tués. Nous reviendrons plus loin sur les circonstances de ces meurtres.
Dès les premières heures de la mutinerie, les trois organisations de détenus prennent possession des différentes L. Les musulmans s'installent dans le L6. l'Aryan Brotherhood OL2 et les Black Gangster Disciples OL1. La Black Gangster Disciples, c'est une gang de rue africaine-américaine de la région de Chicago. Elle a été créée dans les années 1960 et il compterait à peu près plus de 10 000 membres. Chaque organisation travaille des formes d'auto-organisation. Mise en place d'une infirmerie, centralisation de la nourriture disponible et organisation de la sécurité avec désignation des prisonniers chargés du maintien de l'ordre. Des représentants des trois organisations se rencontrent et se mettent d'accord pour s'unir dans la mutinerie.
Donc voici un autre extrait de The Untold Story. Ce que les témoins ont entendu, c'est qu'il n'y a ni blanc ni noir. On prend le pouvoir. On fait notre propre police, mort aux balances. À un moment, il y a eu toute une petite pause et puis « Lucasville est à nous !» C'est pas racial, je le répète, c'est pas racial. C'est nous contre l'administration. On en a marre de se faire avoir par ces gens. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je veux entendre votre oui. Et il y a eu une clameur d'approbation.
Les systèmes d'écoute mis en place pour la police dès les premières heures de la mutinerie permet de connaître assez précisément les contenus des discussions lors des réunions entre les différentes organisations. Pêle-mêle, les détenus veulent négocier avec quelqu'un d'autre que Tate, le directeur de la prison. Ils veulent qu'il soit remplacé. Ils se plaignent de l'indigence des soins médicaux, de la double occupation des cellules, de la présence dans la population générale des détenus affectés pour les virus de l'AIDS et la tuberculose, ou souffrant des problèmes mentaux. Ils se plaignent de la répression des supposées activités liées aux gangs sur la base de la simple apparence physique, dreadlock ou tatouage. Ils se plaignent du manque de ressources disponibles à la bibliothèque et ils veulent que l'administration tienne sa promesse de permettre un appel de 5 minutes, pas beaucoup, hein, au moment des fêtes de fin d'année. Ils veulent aussi pouvoir se laisser pousser les cheveux ou la barbe. Et bien sûr, ils réparent de ce foutu test de dépistage de la tuberculose.
Le lundi matin, les détenus utilisent un haut-parleur pour diffuser auprès des médias, présents de l'autre côté des murs, leurs griefs. En représailles, un hélicoptère est envoyé faire des rondes au-dessus de la prison afin de couvrir le son du haut-parleur. Peu après, l'électricité et l'eau sont coupées. Les quelques 400 prisonniers présents dans le quartier L vivront ainsi, sans eau ni électricité, jusqu'à la fin de la mutinerie. On rappelle, c'était 11 jours.
À la mi-journée, a lieu la première tentative de négociation. George Skates, en blanc, et Cecil Allen, en noir, se rendent dans la cour des promenades. Le premier est muni d'un mégaphone, le second d'un drapeau blanc. Ils tentent en vain de discuter avec les surveillantes présentes dans les miradors.
Comme le haut-parleur ne peut plus fonctionner depuis que l'électricité a été coupée, les détenus disposent aux fenêtres des draps où est par exemple écrit « L'État ne négocie pas. L'administration nous empêche de parler à la presse. Pas de représailles contre les prisonniers. Pas de désignation de supposés leaders. Des appels téléphoniques pour parler aux familles plus de 5 minutes à Noël. Des traitements médicaux conformes aux recommandations médicales. Ici, plein de gens reçoivent de l'aspirine pour des problèmes médicaux sérieux. »
Malgré l'électricité coupée, les mutants réussissent à écouter la radio. Ils entendent la représentante de l'État, Tessa Anwan, dénigrer leurs revendications et prendre à la légère leurs menaces de tuer des otages si leurs demandes ne sont pas satisfaites. Les propos de Tessa Anwan sont reçus comme une provocation par les mutants. La tension monte.
La mort du surveillant Vallandigham. Le jeudi matin, le 15 avril, cela fait quasiment 4 jours que la mutinerie a éclaté, les représentations des différents gangs se retrouvent. C'est alors que, selon les accusations ultérieures, Jason Robb, Namir, George Skates et Hassan auraient décidé de tuer un des otages. Pourtant, on le verra, les retranscriptions ont été mal interprétées et les témoignages disent plutôt que la question a certes été abordée, mais que la décision a été reportée à une réunion qui devait se tenir l'après-midi même. Un surveillant, Robert Vallandigham, est pourtant tué peu après la réunion, très probablement par un groupe de détenus qui désapprouve la décision prise lors de cette réunion.
Après la réunion, simultanément au meurtre de Robert Vallandigham, George Gates se rend au téléphone pour continuer les négociations. En effet, depuis le lundi 12 avril, les mutants discutent régulièrement avec les autorités par téléphone. Au début, leur porte-parole a été le musulman James Bell. En raison des difficultés à se faire comprendre, il a été remplacé dans l'après-midi du mardi 13 avril par George Gates.
Donc, un autre extrait de The Untold Story. George propose la libération de deux otages en échange de 1. Le rétablissement de l'eau et de l'électricité dans l'aile occupée. 2. La possibilité pour les prisonniers de diffuser leurs demandes à la radio et à la télévision. Il déclarait chercher une solution afin qu'aucun surveillant ne soit tué. « J'aimerais que les surveillants soient sortis d'ici », a dit George, le 14. Et David Burchett, qui négociait pour l'État, lui a répondu « Je sais que vous aimeriez qu'ils soient sortis. Parce que vous, vous vous préoccupez d'eux, je le sais. Donc vous et moi, on peut travailler ensemble là-dessus. »
Après 5 heures de discussion, la veille au soir, le mercredi 14 avril, George Gates et David Burchett sont arrivés à un accord. Des surveillants seront libérés et les détenus pourront se faire entendre à la radio et à la télé. Mais le jeudi 15 au matin, lorsque les chefs des organisations des prisonniers se réunissent, ils critiquent l'accord auquel George Gates est arrivé. Le rétablissement de l'eau et de l'électricité a été passé à la trappe dans les discussions. Il a demandé à George Gates de reprendre les négociations, ce qu'il fait donc après la fin de la réunion du matin.
Pendant ce temps où George Gates était au téléphone, Anthony Lavelle, le chef des Black Gangster Disciples, qui considère que les musulmans et l'Aryan Brotherhood sont trop mous, décide qu'il faut tuer un des otages. Depuis la veille, il cherche à recruter des hommes de main et en a trouvé 2. Vers 10 heures, il se rend, à la vue de nombreux témoins des différents gangs, du L1 au L6 avec ses 2 hommes qui se présentent masqués. Puis, il réussit à convaincre Stacy Gordon, un musulman chargé de la sécurité au L6, de le laisser entrer avec ses 2 hommes de main. C'est ainsi qu'est tué le surveillant Robert Vallandigham.
Dans l'après-midi, toujours le 15 avril, George Gates et un co-détenu qui ont continué à négocier commence la mise en œuvre de l'accord qui a finalement été passé. Un surveillant, Darrell Clark, est libéré. Et George Gates peut s'exprimer sur une radio qui diffuse dans tout l'Ohio. George Gates fait partie des revendications des prisonniers. Mais il transmet aussi un message d'un otage, le surveillant Jeff Ratcliffe, à ses parents, un message en apparence anodin. Il dit à sa famille et à ses proches qu'il les aime. Quand George Gates revient à l'aile, certains prisonniers sont fâchés contre lui. À la radio, il a montré trop de garde pour Robert Vallandigham, le surveillant tué, et pour son collègue Jeff Ratcliffe, dont les tatouages de l'Aryan Brotherhood font de lui un ennemi juré des prisonniers noirs. Pour éviter que la situation ne s'envenime, George Gates est remplacé par Jason Robb, un autre blanc également membre de l'Aryan Brotherhood, comme négociateur et porte-parole des prisonniers. Et bon, on arrête ici de lire la première partie. On se revoit la prochaine semaine. Merci et ciao, ciao.
Bonne semaine.